du haut les cieux, les yeux de Dieu parcourent la terre et l'univers pour soutenir.
Ça va bien?
J'imagine quelqu'un qui dit « Non, moi ça va pas tellement, je vais te raconter mon histoire. » On a des moments difficiles des fois dans la vie, mais on vient pour écouter la parole de Dieu afin de recevoir quelque chose pour aller plus loin. Amen. Et ça va aller. Alléluia. Gloire à Dieu. Les deux trucs sont éteints. Ça va marcher cette fois. Nous nous excusons pour vendredi soir. La prédication est à peine audible sur Internet. Mais en poussant le son à fond, vous allez pouvoir l'entendre. Je vous encourage à aller l'écouter quand même parce qu'elle est une parole de Dieu qui va vous faire du bien. Donc, poussez le son un peu à fond. Et puis, ne faites pas trop le difficile en disant oui, voilà, faut tendre l'oreille. Ben oui. Autant de l'oreille. Si vous aviez été sur la montagne quand Jésus prêchait, puis vous étiez tout au fond, ben il n'y avait pas de micro là. Moi, je crois que Jésus sur la montagne, il se baladait un peu de groupe en groupe. Je ne crois pas qu'il criait comme ça pour 5000 personnes, je ne crois pas. Matthieu chapitre 26, 6, 13, s'il vous plaît. On lit dans la parole de Dieu, Matthieu 26, verset 6. À 13. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon, le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'ils étaient à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent : À quoi bon cette perte ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous l'ai dit en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi, en mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. » Amen. Eh bien, voyez, même jusqu'à l'emblore. On parle de cette femme et de ce qu'elle a fait. L'évangile de Jean nous apprend que cette femme, en fait, c'est Marie, la sœur de Lazare. Luc, lui, ne raconte pas cet épisode de la vie de Jésus. Par contre, il raconte un épisode qui ressemble à celui-ci. Mais là, dans Luc, il raconte un épisode et il y a une femme qui vient aussi, mais les pharisiens, les religieux qui sont là, l'a jugée comme étant une femme de mauvaise vie. Et voilà. Donc voilà, deux femmes. Moi, je crois que c'était deux femmes différentes, parce que je ne crois pas que Marie, la sœur de Lazare, était une femme de mauvaise vie. Même dans la tête des pharisiens, je ne crois pas qu'ils pouvaient dire que Marie, la sœur de Lazare, était une femme de mauvaise vie. Donc, ces deux femmes ont fait les deux le même geste, si vous voulez. Ce qui pourrait nous faire croire en plus, parce qu'il y en a qui confondent, qui mélangent tout, que c'est la même femme, que c'est Marie, la sœur de Lazare, c'est qu'il y a aussi dans l'histoire un Simon. Il y a des Simons partout dans la Bible. Simon, c'est comme les Dupont d'ici, hein. Les Simons, ben même le père de Judas s'appelait Simon, hein, il y a plein de Simons. Donc voilà, faut pas trop se casser la tête avec ça. Je ne pense pas que le Simon de Luc 7:43 et le Simon le lépreux de Matthieu 26:6 qu'on vient de lire là soit le même. Vous voyez, ces deux femmes ont fait le même geste. Mais que vous soyez mal vu à cause d'une réputation que vous avez qui est peut-être justifiée, ou que vous soyez, et que vous fassiez quelque chose, un geste de repentance, ou quelque chose, voilà. Ou que vous soyez une sainte, comme la sœur de Lazare, eh bien, il y aura toujours des gens qui vont critiquer ce que vous faites avec votre cœur. Toujours. Vous n'y échapperez pas, c'est comme ça. L'épisode que nous avons lu se passe dans la maison d'un homme qui s'appelle Simon. On disait que c'était Simon le lépreux. C'est Matthieu qui nous dit ça, et Marc aussi nous le dit. On ne sait pas grand-chose, on ne sait rien en fait de ce Simon le lépreux. Mais on peut comprendre que certainement il n'était plus lépreux, parce que s'il avait été lépreux, il n'aurait pas pu habiter à Béthanie dans une maison, il aurait été comme à cette époque, chassé loin, et donc il n'aurait pas pu habiter Béthanie. À mon avis, ce Simon le lépreux avait été un lépreux, mais il avait été guéri par Jésus, et il avait pu rentrer dans sa maison. Moi je crois ça. Maintenant, pourquoi ce repas a eu lieu chez Simon et non pas chez Lazare, parce que c'était à Béthanie? Lazare venait de ressusciter, ça aurait pu se faire chez Lazare. Ben, je pense que c'était... Je vais vous dire quelque chose, c'est mon idée, hein, c'est pas vraiment la parole de Dieu, mais voilà. Jésus est dans la maison de Simon le lépreux, l'ex-lépreux. Jean raconte que Marthe servait à table et que Lazare, qui était ressuscité, était là aussi. On trouve ça, il faut lire tout ce qui est écrit dans tous les autres évangiles et on commence à avoir le pulse pour voir ce qui s'est vraiment passé. Et donc, quand je vois Marie qui est en train de que Marthe est en train de servir à table, etc., etc., moi je pense que Simon le lépreux, l'ex-lépreux, c'était peut-être leur papa. Et puis que la maison était plus grande que chez Lazare. Alors ils ont décidé de faire la fête chez le papa, c'était donc le papa de Lazare, de Marthe et de Marie. Et voilà, donc ça c'est rien qu'il le dit dans la Bible, mais bon, moi on a le droit de penser ce qu'on veut. Là, Lazare et ses sœurs, ils sont dans cette maison et ils sont très libres. Ils sont comme chez eux si vous regardez bien les textes. Mais il y a aussi beaucoup d'autres mondes, il y a plein de gens aussi qui sont là. Vous savez, à cette époque, c'était assez difficile d'avoir un moment d'intimité dans les maisons. Les gens rentraient, sortaient comme dans des moulins, un petit peu comme en Afrique. Quand j'arrive en Afrique, eh ben c'est très difficile de rester tout seul. Maintenant, chez Nicolas, c'est bien, il y a un mur, il a deux chiens terribles. Donc, il y a moins de gens qui viennent. Mais au départ, tout de suite, il y avait une quinzaine de personnes qui arrivaient. Et puis, il fallait les nourrir aussi. Hein. Donc voilà, c'est les voisins, les badauds, ceux qui ne sont pas invités, ils viennent quand même, c'est comme ça. Donc, il y avait plein de gens qui n'étaient pas forcément invités. Et ils étaient venus voir Jésus, le faiseur de miracles. C'était une star, lui. Et puis, ils étaient surtout aussi venus parce qu'ils voulaient voir Lazare. Tout le monde avait appris que Lazare était mort et que Jésus l'avait ressuscité d'entre les morts. C'était un sujet très intéressant. Hein. Depuis sa résurrection, c'était devenu une curiosité dans le coin. Il fallait voir Lazare, lui poser des questions, savoir s'il avait vu quelque chose de l'autre côté, etc. etc. Et les religieux sont là aussi, on va le voir tout à l'heure. Mais bon, on ne va pas parler d'eux. On s'est déjà assez gâché la vie, ces trois dernières prédications en parlant de ces gens-là. Ça a été un souper inoubliable, inoubliable. Marie, la sœur de Lazare, vous vous souvenez, la frangine contemplative, celle qui s'assied aux pieds de Jésus et qui l'écoute pendant que Marthe est en train de bosser. Marie, qui avait été félicitée par Jésus, Jésus lui a dit que c'est elle qui avait choisi la meilleure part, eh bien, elle sort de son trésor personnel un vase d'albâtre qui contient à peu près un demi-litre d'un parfum de très grand prix. Alors, elle répand ce parfum sur la tête de Jésus, elle en met aussi sur ses pieds, elle défait ses cheveux, elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Bon, il arrivait que quand on reçoit quelqu'un de très important, eh bien, on mette un peu de parfum sur sa tête, c'était, n'est-ce pas, pour l'honorer et tout. Mais alors là, la tête et les pieds, c'était vraiment l'honorer d'une façon extraordinaire. Elle l'adorait. Elle adorait Jésus, même avant qu'il ressuscite son frère. Déjà avant, elle aimait bien s'asseoir aux pieds de Jésus, puis l'écouter. Elle était admirative de toutes ces paroles de grâce qui sortaient de la bouche de Jésus. Elle aimait l'entendre prêcher. Et puis elle souffrait aussi de voir qu'il était tellement incompris par les esprits coincés, par les petits esprits faussement intellectuels, par ces religieux de pacotille. Alors, son geste, c'était un geste exubérant, si vous voulez. C'était un peu exagéré. C'est l'exubérance, n'est-ce pas, parfumée d'un cœur plein de dévotion, plein d'affection aussi. Elle avait une affection pour Jésus. Elle savait qu'elle faisait un geste qui coûtait cher. Elle en avait conscience. C'était pas une folle. Mais quand on aime, eh ben on compte pas, on n'offre pas des babioles, si on peut, hein, si on peut. Et voilà les commentaires. Alors, on raconte que c'est Judas qui a protesté. C'est Jean qui dit ça. Moi, j'aime bien voir dans Marc, c'est écrit que quelques-uns ont exprimé leur indignation. Vous voyez, Marc il dit quelques-uns ont manifesté leur indignation. J'aime bien voir aussi ce qu'on a lu dans Matthieu, où il dit carrément, c'est les disciples. Hein, il fait pas de mystère, lui. Il dit, c'est les disciples. Vous voyez, c'est le brave homme pêcheur, c'est-à-dire l'homme qui bosse, c'est pas un finot qui essaie de raconter des histoires et puis d'arrondir les angles. Non, lui, c'est pas quelques-uns, c'est les disciples. Il dit, voilà, il balance, c'est les disciples qui se sont indignés. Mais Jean, le disciple de l'amour, n'est-ce pas? Eh ben, lui, il raconte que c'est Judas. Qui a rouspété. Alors on va lui trouver des excuses à ce pauvre Jean, disciple de l'amour, qui a peut-être la mémoire courte, hein. Ça peut arriver, on peut avoir de l'amour et puis avoir une mémoire courte. Ou alors, peut-être qu'il n'était pas là quand c'est arrivé, il était aux toilettes, je sais pas, hein. Il n'a pas vraiment vu, qu'il n'a pas vraiment entendu qui c'est qui a rouspété, on lui a raconté un petit peu après, qui c'est. Alors suivant si c'est Marc ou si c'est Matthieu, enfin bon, lui, de toute façon il y avait Judas dans le truc, il a dit que c'était Judas. De toute façon il y avait une mauvaise presse, Judas c'était un voleur, on le savait, donc voilà. C'est lui qui incrimine Judas. Donc, les disciples s'indignèrent. À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner, n'est-ce pas, le bénéfice, le prix aux pauvres. Vous savez, si les religieux n'ont pas changé, ben les disciples de Jésus-Christ non plus n'ont pas changé. Et il faut qu'on fasse attention, nous autres disciples de Jésus, de ne pas devenir des religieux. C'est la frontière, elle est très fine. Très fine. Faites attention de ne pas devenir des religieux ou faites attention de ne pas devenir ces gens, ces disciples qui font de la peine aux autres. Qui font de la peine aux autres. Bon. Judas, au moins, il avait un intérêt à rouspéter. Parce qu'il pensait à lui. Puisque, comme Jean le raconte, oui, si on avait vendu, ben on aurait pu donner l'argent aux pauvres, et comme c'est lui qui gérait les biens, tout ça, ça passait dans la caisse, et puis comme d'hab, hop, il se serait mis une partie dans la poche. Donc il était intéressé. Mais les autres disciples, ils critiquaient avec désintéressement. Moi, je trouve ça encore plus coupable. Avec désintéressement, ils pensaient aux pauvres. Ah, comme c'est joli. Alors Jésus leur parle. Jésus leur parle. Il ne dit pas, oui Judas, hein, tu voulais piquer dans la... Non, non, non. Jésus leur dit, mais des pauvres, vous en aurez toujours. Vous en aurez toujours. Tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. Un geste de gratitude qui coûte cher, ça les outrait. Ça les outrait. Vous savez, quand je vais en Afrique, chaque fois, après les séries de réunions qu'on fait, il y a des gens qui viennent, des gens tout simples qui viennent, et puis ils m'offrent des cadeaux, un morceau de tissu pour ma femme, pour qu'elle se fasse une robe, ou un petit tableau, ou une petite statuette en bois sculptée, quelque chose. Et certains, ils sont si pauvres que moi, ça me gêne, parce que ils me font des cadeaux, mais leur joie, en fait, qu'ils ont, cette joie qu'ils ont de me donner quelque chose, ça n'a pas de prix. Ça a une tellement grande valeur que voilà, je suis gêné, mais je prends quand même, je prends leur cadeau. Un soir, en 1977, 97 plus exactement, sur une terrasse en Suisse, j'ai entendu quelqu'un qui racontait une histoire à d'autres personnes. C'était mon ami Marc Crozin. Et il racontait, il disait qu'un dimanche en Afrique, je me rappelle parce que j'y étais, un dimanche en Afrique, à Abidjan, il y avait eu une réunion sous un chapiteau, et là, à la fin de la réunion, les gens défilaient pour nous offrir des cadeaux, et il y a une pauvre dame très âgée qui lui a donné une pièce de monnaie. Et elle a raconté qu'elle voulait donner quelque chose à l'homme de Dieu, mais qu'elle avait rien. Mais quand quelqu'un vous dit qu'il a rien en Afrique, c'est vraiment vrai. Alors, elle dit qu'elle a prié pour qu'elle puisse avoir quelque chose à donner à l'homme de Dieu. Et puis qu'elle a trouvé cette pièce de monnaie par terre. Alors elle l'a prise et elle l'a apportée à Marc. Et là, sur cette terrasse, face aux montagnes suisses, n'est-ce pas, la nuit était tombée, il y avait des petites coupettes, tout ça, il y avait plein de gens, entouré de tous ses amis. Il avait les larmes aux yeux en racontant ça. Il avait les larmes aux yeux. Et je l'ai entendu dire, ça a été le moment le plus fort de ma vie. Vous voyez, on peut rendre les gens heureux avec des gestes de gratitude. Ou on peut faire de la peine. Ces deux gestes, ils sont à portée de nos mains. Même des mains les plus démunies, cette femme, elle aurait aussi pu faire de la peine. Pour Jésus, ce geste, il était très précieux. Il a dit, je vous le dis en vérité, partout où cette nouvelle sera prêchée, cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi, en mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. Et cette prophétie s'est réalisée encore aujourd'hui, et je suis sûr qu'ailleurs encore dans le monde, il y a des gens, des prédicateurs qui parlent là-dessus, et qui lisent à ce sujet, des gens qui lisent à ce sujet dans la Bible. Maintenant, on parle de cette femme. Comment parle-t-on de vous? Que dit-on à votre sujet? Est-ce qu'on dit que vous êtes généreux? Est-ce qu'on dit que vous êtes stupidement généreux? Est-ce qu'on dit que vous faites souvent de la peine aux gens? Qu'est-ce qu'on dit de vous? Est-ce que Marie avait compris que Jésus allait mourir? Je ne pense pas qu'elle avait compris ça, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais je sais une chose, c'est que Jésus, lui, savait qu'il allait bientôt mourir. Alors il a mis son geste là, ce geste de cette femme, ce beau geste, en rapport avec sa mort. Directement, il a dit, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Et vous? Est-ce que vous attendez que les gens soient morts pour les embaumer, pour les encenser? Pour ma part, comme Jésus... Humblement, hein, pour ma part, comme Jésus, je préfère être embaumé de mon vivant. Pas vous? Montrez votre amour aux vivants. Les morts ne savent pas quoi faire avec votre amour. Montrez votre amour en respectant ce que font les vivants. Encensez les vivants. N'attendez pas d'être devant leur cercueil pour les encenser. Cette pauvre femme... Pas Marie, la sœur de Lazare, l'autre femme, qui a elle aussi oint les pieds de Jésus, elle avait sa raison de le faire. Elle est une de ces femmes anonymes qui, depuis la foule, elle avait entendu Jésus dire des paroles pleines de grâce, elle avait entendu ce « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos, venez à moi ». Alors elle est venue à lui, elle est venue par derrière, honteusement. Avec un esprit contrit, elle est venue, elle s'est prosternée là, elle lui a embrassé les pieds en signe d'humilité. Elle a embrassé ses pieds en hommage respectueux, elle s'est mise à pleurer. Elle avait un esprit profondément repentant, et puis ses larmes sont tombées sur les pieds de Jésus. Alors elle a défait ses tresses, elle a commencé à essuyer les pieds de Jésus. Et puis ensuite, elle avait pris du parfum avec elle, elle a oint les pieds de Jésus. Et Jésus l'a laissé faire. Jésus l'a laissé faire. Et voilà les commentaires des religieux, mais on va passer dessus. J'ai assez bouffé le religieux ces trois dernières prédications. Venons-en à ce que Jésus dit au sujet de cette femme-là. Ses nombreux péchés lui sont pardonnés puisqu'elle a ainsi beaucoup aimé. Alors, il rajoute, Mais celui à qui on a peu pardonné, ben il aime peu. Jésus aime être aimé. Comme nous. Mes frères et sœurs, pour être aimé, il ne faut pas dire du mal des gens. Il ne faut pas aller raconter des histoires. Il faut les encenser, il faut les bénir, il faut leur faire des cadeaux, il faut être gentil. Et quand ils ont fait quelque chose de mal, ben, faut pardonner. Jésus lui a pas dit, bon, on va faire la liste de tout ce que tu as fait de mal, tout ce que tu as dit de mal, on va faire un examen. Non. Il a vu qu'elle était remplie d'amour, là, remplie d'humilité. Il n'a pas besoin d'écouter ses confessions, ses machins, ses histoires. Il regarde cette femme et il lui dit les paroles de soulagement qu'elle espérait entendre. Tes péchés sont pardonnés. Elle n'a pas demandé pardon. Elle a juste été reconnaissante d'avoir entendu que si on est fatigué et si on est chargé, on peut venir à lui et qu'il nous donne du repos. Alors elle est venue reconnaissante parce qu'elle a entendu cette phrase, elle a cru ça, elle est venue et elle a reçu son repos. Et voilà les commentaires. Mais bon, on ne va pas gâcher notre journée avec ces vieux grigous qui voient le mal partout. On laisse tomber les commentaires. Quelle sorte de personne allez-vous être à partir de cette prédication d'aujourd'hui? Quelle sorte de personne? Celle qui dispense des paroles d'encouragement? Celle qui pardonne ceux qui viennent le cœur brisé avec gratitude? Parce qu'ils savent que vous avez un bon cœur? Ou est-ce que vous allez être celui qui fait de la peine? Qui est aigre comme un vieux cornichon? On n'ose pas vraiment aller vers cette personne parce que chaque fois qu'on y va, on se fait griffer, on se fait rare, c'est désagréable. Chaque fois, il y a un truc qui ne va pas. Et puis on vous balance une vacherie tout le temps. Non, ne faites pas de la peine. Marie, sœur de Lazare, ce n'était pas une femme pécheresse. Ben, ils ont trouvé moyen de lui faire de la peine. L'autre femme, qui était une femme pécheresse, ben, ils ont aussi trouvé moyen de lui faire de la peine. Ah, c'est tellement facile. Rien n'arrêtera les méchants, ni les abrutis. Et il y en a parmi les disciples. C'était des disciples, ces abrutis qui avaient fait de la peine. C'était des disciples. Ne pensez pas, parce que vous êtes disciple, que vous n'êtes pas un abruti. Vous êtes peut-être un abruti, un disciple abruti. Qui voit toujours le machin moche. Hier, je lisais, on était avec Philippe, on était dans le canapé, puis on regardait sur Internet les pensées, n'est-ce pas? Il y a des gens qui pensent. Hein. Alors, il y en a un qui a écrit, « Les abrutis sont ceux qui ne voient le beau que dans les belles choses. » Jésus, il a vu le beau dans cette femme qui était pécheresse, qui avait fait des choses vraiment mal, mais il a vu le beau, il a pardonné. Vous voyez? Les disciples, ces abrutis. Les religieux, ces abrutis. Ils font de la peine. Rien n'arrêtera les méchants. Il n'y a qu'en se tournant vers Jésus qu'on trouve le repos. Tournez-vous vers Jésus. Ah, mais de quel côté? Ben, vers Jésus qui vit dans ceux qui sont justement des embaumeurs de vivants. Tournez-vous vers Jésus qui vit dans les embaumeurs de vivants. Dans les gens gentils. Tournez-vous vers ces gens en qui Jésus vit vraiment. Et puis, comme eux, embaumez aussi les vivants, encensez les vivants, faites-leur plaisir, soyez gentils, ne leur faites pas de peine. S'ils sont tombés, relevez-les. S'ils sont dans un état de faiblesse, relevez-les. C'est seulement ainsi que vous honorerez celui que vous dites aimer, Jésus-Christ. C'est tout, mes frères et sœurs, c'est tout ce que j'ai à vous dire ce matin. Mais c'est beaucoup, c'est tout un programme. Et je pense que si on s'applique à le faire, à se dire, il n'y a pas trois sortes de personnes. Il y a ceux qui se font de la peine, puis il y a ceux qui encensent les vivants. Ben nous, on va être ceux qui encensent les vivants, ceux qui sont gentils. Amen. Si déjà on a compris ça, waouh, on va aller loin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus soit béni, mon Dieu. Je te prie que tu aides, que tu m'aides et que tu aides chacun d'entre nous à être... Personne qui fait le bon choix, qui fait le choix d'être gentil, qui fait le choix de respecter l'autre, qui fait le choix de l'accueillir, de le bénir. Et si une mauvaise pensée nous traverse la tête, que nous la chassions, que nous ne soyons pas comme ces abrutis de religieux ou ces abrutis de disciples. Disciples, mais abrutis quand même. Aide-nous, Seigneur mon Dieu. Aide-nous à être des gens qui sont gentils. Je te le demande dans le nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Amen.